Après une traversée tumultueuse du continuum spatio-temporel sur les traces des cosmonautes perdus de Schlegel, il est temps de s'intéresser d'un peu plus près à cette musique des sphères qui pourrait bien repousser les limites de l'audible. Depuis Pythagore jusqu'à Kepler et ses gammes planétaires, rechercher l'harmonie du monde et vouloir attacher des notes aux planètes revient comme une constante dans l'histoire des civilisations. On sait aujourd'hui que les hommes préfèrent les ondes, ce qui tombe plutôt bien, puisque le ciel rayonne dans toutes les longueurs d'onde. Certaines de ces ondes que l'on reçoit, les ondes radio, permettent aujourd'hui de transposer les signaux cosmiques en pulsations stellaires, qui rythment probablement bien notre relation au ciel, notre présence au monde. C'est ce que nous explique Sylvie Vauclair, spécialiste de la symphonie des étoiles. Ceci nous permettra d'aborder ensuite, entre autres, les univers de Johanna M. Beyer, Olivier April, François Bell, Henri Michaud et Pierre-Henri.
Sound, sound is astonishing because it sounds in space. Where does it come from and where does it go? Time and illusion, sound not related to the time it seems to take. I hear stars continuously playing their cosmic symphony.
La musique et l'astronomie ont toujours fait bon ménage, il y a toujours eu une liaison étroite. C'est les Grecs, donc 300 ans avant Jésus-Christ à peu près, ou 200-300 ans avant Jésus-Christ, qui ont commencé à se construire des représentations du monde, et en même temps, la musique. Et Pythagore, donc en particulier, Pythagore et les pythagoriciens qui ont imaginé que les planètes, d'abord les planètes tournaient autour de la Terre, donc il y avait sept planètes qui commençaient par la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et le firmament. Voilà. Et donc sept muses pour les sept planètes. Et sept notes de musique. Donc, il y avait une note de musique par planète, et c'était la musique des sphères. Et les sept notes de musique, c'était des notes construites à partir d'un son fondamental, et c'est encore la base de notre gamme musicale occidentale. Pas entendre de musique du ciel parce que c'est le vide. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de son qui se propage. Mais à l'intérieur de l'étoile, c'est pas le vide. Une étoile, c'est une grosse boule de gaz. Et c'est une grosse boule de gaz chaud. Et si vous avez des phénomènes sonores qui se produisent dans une étoile, bien là, les ondes sonores peuvent se propager. On sait que les étoiles vibrent comme des sphères. Enfin, pas toutes les étoiles, mais beaucoup. Et le Soleil en particulier. Et le Soleil, c'est une grosse boule de gaz de 700 000 km de rayon, c'est-à-dire 100 fois la Terre, hein, et très chaud. enregistré 5800 degrés en surface et 16 millions de degrés au centre, donc c'est très chaud. Densité qui ressemble à la densité de l'eau. Mais comme c'est très chaud, c'est évidemment du gaz, et c'est surtout du gaz hydrogène. Il y a beaucoup de rayonnements qui viennent du ciel, pas seulement les rayonnements visibles à l'œil, mais tous les autres rayonnements, donc les rayons X, les rayons gamma, qui sont nocifs pour nous. Mais aussi ce qu'on appelle les ondes radioélectriques. Les ondes radioélectriques, c'est les mêmes types d'ondes que celles des antennes de radio-télé ou des téléphones portables. Ou bien même aussi les micro-ondes qu'on a dans les fours à micro-ondes. Tout ça, ce sont des types d'ondes radioélectriques. Et ces ondes-là, dans le ciel, ce n'est pas des ondes sonores, ce n'est pas du son. Ce sont des ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. Mais les longueurs d'onde, c'est les mêmes que les longueurs d'onde des ondes sonores que l'oreille humaine est capable d'entendre. Donc on peut tout à fait transformer ça en musique. C'est quand même un signal qui vient du cosmos et qui peut être traité comme de la musique. C'est comme la radio. Eh bien, ce ne sont pas des ondes sonores qui sont parties de l'orchestre qui joue et qui ont traversé le ciel pour venir jusqu'à vous. On sait très bien qu'il y a une transformation. Des ondes comme ça, eh bien, ils s'en propagent beaucoup dans le ciel. Dans l'espace qu'on appelle l'espace interstellaire, ce qui est entre les étoiles, il y a des nuages. Il y a des nuages de gaz, et dans ces nuages de gaz, il y a des molécules, et des molécules qui sont du style des molécules du vivant. Oui. Vous avez de l'alcool, par exemple. Vous avez des molécules de parfum dans le ciel. Et puis vous avez des molécules qui sont assez complexes. Et ces molécules, justement, on les détecte, on les reconnaît parce qu'elles ont une signature dans le rayonnement. Et une signature qui correspond justement à ces ondes radioélectriques. Et si pour chaque impulsion, eh bien, on fait un son, ça donne une musique cosmique aussi. Quand on écoute plusieurs instruments de musique qui jouent la même note, on a un son un petit peu différent parce qu'il y a des harmoniques différentes. Bien dans une étoile, c'est pareil. Dans le Soleil, il y a 20 millions d'harmoniques et on peut décomposer le son dans toutes les harmoniques et retrouver comme ça comment le Soleil est fait à l'intérieur. De la même manière que pour les instruments, ça dépend de ce qu'il y a dans les caisses de résonance. En fait, voilà, donc la musique des sphères existe. Mais c'est pas celle de Pythagore, c'en est une autre. Et quand on regarde les étoiles dans le ciel, on peut se dire, ben, d'une part, qu'il y a peut-être beaucoup de planètes là-haut autour d'autres étoiles, et puis d'autre part, que ces étoiles font de la musique, qu'on n'entend pas comme ça, mais qu'elle existe réellement, cette musique. C'est vrai qu'on est toujours assez excité et intéressé en se disant que l'univers n'a pas toujours existé, que ce qu'on voit dans le ciel, ça a un certain âge, 14 milliards d'années, et qu'il y a eu un début. Et ce début, on ne sait pas trop ce que c'est, même si beaucoup de gens travaillent sur cette idée de ce qui a pu se produire vraiment au début. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en revanche, on connaît bien l'évolution de l'univers depuis ses premiers instants. Et dans les premiers instants de l'univers, l'univers était dense, beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud que maintenant, avec la densité de matière, il y avait du gaz. Et la densité de matière qu'il y avait à l'époque, il pouvait se propager des ondes sonores. Il pouvait y avoir du bruit. Il pouvait y avoir de la musique. Comment est-ce qu'on... Il y avait des ondes sonores dans le Big Bang. Et en plus de ça, ces ondes sonores qu'il y avait dans le Big Bang, eh bien, je dirais que là aussi, on les voit. Ça va peut-être vous étonner, mais le Big Bang, on le voit. Ah, on le voit. On ne le voit pas à l'œil. Ce rayonnement qui nous vient du Big Bang, c'est plus du tout un rayonnement spectaculaire, ou parce que depuis le temps, il a perdu de l'énergie. Donc en fait, c'est un rayonnement qui est maintenant justement dans le domaine des ondes radioélectriques. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, qui correspond à une température... de 2,7 degrés absolus, c'est-à-dire quoi ? Enfin, c'est très froid. Dans ce rayonnement qu'on observe, qui vient du Big Bang, il y a des fluctuations. Des fluctuations qui sont en fait des fluctuations sonores. Il n'y a pas que ça, mais il y en a.
Le ciel atteint brusquement des proportions gigantesques. La Terre n'est plus le socle immobile autour duquel tournent les étoiles. Comme la Lune et les planètes, elle est un corps céleste. Entre les étoiles et les humains se tisse une relation secrète, comme dans un monde à part. Un monde lointain, inatteignable, mais sur lequel on peut compter.
Thank you.
Un noyau dense dans lequel les mots et molécules sonores virevoltent, s'entrechoquent, s'affolent puis apaisent, laissant derrière eux les traces infimes d'une déflagration. Des lignes sans fin qui s'enlacent dans le mouvement perpétuel jusqu'à ce que une soit le tout. Naissance d'une d'Olivier April, à retrouver avec les encres d'Armel Reiter sur le papier de Zinc Édition et ici en onde avec la voix d'Olivier et les mains du magicien Christophe Rowe.
Naissance d'une. Ligne d'horizon qui rapproche la terre et le ciel et la mer, qui confond la mer et le feu, touche l'air et l'eau, le sel et le sable, qui absorbe le sol et le sang, la couleur et la chair, qui absorbe la sève et la lave, et le suc et la bave, et la salive et la sueur, et l'alcool et la vase. Ligne d'horizon qui écoule et qui condense, qui vibre et précipite, qui dépose et repose et superpose la vapeur et le limon, la racine et la nuée, la strie, le rayon, le solide et le vide. Ligne de jonction, de tension dégrisée, obscure et claire, courbe irrégulière qui plonge et qui gradue l'épaisseur et l'onglet, la plaine et la brisée. Ligne de niveau qui transporte et qui émerge, qui amasse et qui déplace. Ligne de flottaison qui brasse l'encre et la cendre, le camphre et la fumée, qui module et ondule, qui mouille et qui mélange. Ligne de force qui divise et multiplie et compose. Ligne de qui étire, qui étale, qui détrempe, qui infiltre. Ligne étoilée, ligne flottante, terre d'ombre, qui couche sur couche, transparence, qui goutte à goutte. Corolle fluviale qui buissonne, pellicule qui répulse, qui contourne, qui étend. Ligne pointillée, dentelée, feuilletée, fuselée, enrobée, chiffonnée. Tache frontalière, ligne poreuse, ligne chromatique, ligne de fond qui agite, qui remue la matière, la mémoire, l'espace et le trait, la cerne et l'encoche. Bordure qui incline, surface qui semence. Ligne d'intensité, ligne d'indiscernabilité qui dilue le haut, le froid, qui dissout le noir et la blanche, le jour et la nuit. Le silence et la souche. Ligne d'attaque et de défense, de démarcation, de migration, sens d'une combe, d'une lagune, d'une constellation, plaque tournante, pâte liquide, marée salante, rite sur l'étang, ligne aérienne, ligne indigo, ligne de partage des eaux, zone qui chevauche, utopie du milieu, ligne de hasard qui monte et qui lève, qui dessert et qui engendre, lac endormi, ondée laiteuse, épine pétrifiée, trace de plume qui recouvre la pelure et la peau, la morphe et le duende, composante d'expression qui passe entre le signe et le sens, l'acte et le geste, l'abîme et la cime, ligne d'harmonie, ligne de patience infinie qui dérive le dard et l'ivraie, la silice et le gypse, ligne cicatrice qui englobe et protège, rassure et pacifie, qui comble et qui répare, voie latérale qui fonce et qui éclaire, corne de brume, flèche d'étang, feuille de bitume, touche ultime, ligne secrète, ligne mobile du paysage fossile, ligne fluide de la percée, de la poussée, de l'apparition, de l'exposition, ligne continente, mouvance qui diachronise, qui géographise, qui fait liaison, tension, extension, graine de colle, pont de toile, courant qui malaxe, qui imbibe, ligne de crête, ligne d'air, ligne de chance.
Thank you. Enfin, avant de rentrer, je lève la tête. Un ciel noir s'étendait partout avec beaucoup d'étoiles. Je m'y abîmais. Ce fut extraordinaire.
Extraordinaire.
Instantanément dépouillé de tout comme d'un pardessus, j'entrais en espace. J'y étais projeté, j'y étais précipité, j'y coulais. Par lui happé violemment,
sans résistance.
Prodige jamais soupçonné. Pourquoi ne l'avais-je connu plus tôt ? Après la première minute de surprise, il paraissait tellement naturel d'être emporté dans l'espace. Et pourtant, combien de fois n'avais-je pas regardé d'aussi beau et de plus beau ciel sans autre effet ?
Sans autre effet qu'une vraie et vaine admiration.
Admiration, deux points.
Admiration.
Antichambre, rien qu'antichambre.
Rien qu'antichambre.
Une fois de plus, je le vérifiais. C'était ce que je vivais, bien autre chose que de l'admiration.
Un registre tout différent. Quoi au juste ?
Ce n'est pas facile à saisir.
Comme soustrait à la terre, me sentant emporté invinciblement par le haut, entraîné toujours plus haut, grâce à une merveilleuse invisible lévitation, dans un espace qui ne finissait pas, qui ne pouvait pas finir, qui était sans commune mesure avec moi, qui toujours plus me tirait à lui, je m'élevais de plus en plus, aspiré inexplicablement, sans qu'évidemment je puisse jamais arriver. D'ailleurs, arriver où ? Cela aurait pu être épouvantable.
C'était rayonnant.
Le statique,
le fini,
le solide avaient fait leur temps. Il n'en restait rien. Ou comme rien. Dépouillé de possessions et d'attributs. Dépouillé même de tout recours à la terre. Délogé de toute localisation. Dépouillement invraisemblable qui semblait presque absolu. Tant j'étais incapable de trouver quelque chose qui ne m'eût pas ôté. C'est certain, jusqu'ici je n'avais pas vu, pas vraiment vu le ciel.
J'y avais résisté.
le regardant de l'autre bord, du bord terrestre.
Du bord du terrestre.
Du solide.
De l'opposé.
De l'opposé. Cette fois, la rive effondrée, je m'y enfonçais. Vertigineusement, je m'enfonçais en haut.
En haut.
Henri Michaud, Le dépouillement par l'espace, fragment.